RMC Intégral Foot Ligue 1 Uber Eats.
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans Intégral Foot Ligue 1. On est ensemble jusqu'à 17h. Il est là, mon fidèle adjoint, à mes côtés, Kevin Diaz, pendant 2 heures. Salut Kevin.
Salut à tous.
14e journée de Ligue 1 qui se poursuit cet après-midi. 4 matchs vont démarrer dans quelques secondes. Nantes, Dijon, Brest, Reims, Lorient-Nîmes ou encore Strasbourg-Metz. On va retrouver nos envoyés spéciaux dans un instant. Arthur Perrault, notre monsieur stat, est déjà à nos côtés. Salut Arthur.
Salut messieurs.
Bonjour Arthur.
Je vous rappelle que Rennes vient d'aller gagner à Nice 1-0 à 17h. Lille reçoit Bordeaux et puis à 21h le choc de cette journée entre le PSG et Lyon. On n'oublie pas la Formule 1 avec la suite du Grand Prix d'Abu Dhabi. C'est le dernier Grand Prix de la saison. On retrouvera Jean-Luc Croix également et puis le rugby, la suite de la première journée de Coupe d'Europe et enfin le biathlon avec le relais à Orpinson. Allons tout de suite saluer nos amis sur les pelouses de Ligue 1. C'est la 14e journée. On démarre par la Beaujoire avec David Philippot, Nantes qui reçoit Dijon. Salut David.
Ouais, salut Benoît, salut à tous. Et effectivement, ça a démarré depuis 20 secondes. La grosse info, c'est le bouleversement de cette équipe nantaise. Patrick Colo a fait des choix. Il a laissé sur le banc Louza, Colomouani, Touré et Blas. Et c'est donc Aymon qui joue tout seul en pointe devant. 0-0 après 35 minutes. Exact. 35 secondes de jeu, pardon.
Ouais, parce que 35 minutes.
Non, pas déjà.
Le temps passerait très vite. David, on reviendra avec toi évidemment sur les échauffourées qu'il y a eu autour de la Beaujoire. On pourra en parler d'ici quelques minutes puisque tu y as assisté. Les cotes et la stat à retenir
et
sur ce match.
Ces changements n'empêchent pas les Canaries d'être assez largement favoris. 1,63 pour Nantes, 3,85 le nul, 5 la victoire de Dijon qui est en difficulté puisque Dijon a remporté 46,9% de ses duels en Ligue 1 cette saison. C'est tout simplement le plus faible pourcentage pour l'instant.
Allons à la Méno. Le derby de l'après-midi va opposer Strasbourg au FC Metz. Une sorte de Dialoico ou alors de Ruffetico. Salut Sébastien Ruffet.
Ouais, c'est au choix. Salut tout le monde. 50 secondes de jeu ici.
L'ouverture du score déjà pour les Lorientais. Le premier contre pour les joueurs du Morbihan. Et l'ouverture du score signé Boigard après le déboulé côté droit de Lorienté. On joue à peine depuis 2 minutes. Et les Lorientais ouvrent le bal.
Salut Pierre Bleroux.
Bonjour messieurs. J'allais parler des élèves qui sont toujours sur le poil et qui sont derniers de la classe. Et Lorientais et les Nîmois, 11 points et 8 points pour Lorient seulement. Eh bien, ça commence fort.
Et on vous en parle depuis des semaines. Armand Lorienté, sacré joueur, sacré potentiel, tout jeune joueur qui est arrivé en provenance de Rennes. Là, il fait un déboulé fantastique.
Ah oui, magnifique.
Franchement, une action de classe, hein, Kevin. Hein.
Ouais, super.
Tout seul.
Arnaud Lorienté, c'est un joueur que je connais et que je suis déjà depuis plusieurs saisons. Et c'est vrai que c'est un très très bon joueur. Et il a fait la diff, même s'il y a eu une première presque occasion sur le corner du côté pour Nîmes. Non, Pierre-Yves,
oui, ça a été très très chaud juste auparavant. Dans la première minute pour les Nîmois, j'ai même cru qu'ils allaient ouvrir le score. Et puis il y a ce contre, donc très rapide avec Lorienté.
Bien fini.
Tu courais quasiment comme lui, aussi vite que lui, Kevin, à l'époque.
Si, franchement, j'étais peut-être pas un grand joueur, mais j'étais pas un grand joueur, mais j'allais très très vite. Ça, tu peux pas le nier.
Ça, c'est vrai. Effectivement, donc c'est le premier but de l'après-midi avec ce but Lorienté donc face à Nîmes, Arthur.
Et maintenant, les Lorientais qui sont à 1,31 seulement, 4,40 le nul, 6,75 pour les Nîmois. C'est un match important parce qu'il s'agit de la première confrontation entre Lorient et Nîmes en Ligue 1. Les Merluis qui ont perdu leurs 2 derniers matchs contre les Crocos en Ligue 2. C'était lors de la saison 2017-2018.
Et pourtant, c'est le 500e match en Ligue 1 aujourd'hui des Lorientais.
Ah ouais,
exactement.
Belle stat pour les Merlus, effectivement. On espère pour eux que ça va se conclure par une victoire. Retournons à la Méno, ce derby donc présenté par Sébastien Ruffet.
Ouais, c'est aussi un record pour moi. Je crois que je me suis fait couper de la façon la plus rapide de l'histoire de ma carrière. 3 secondes de commentaire et déjà un but. Merci Pierre-Yves.
Mais t'avais été très bon sur les 3 secondes.
Ouais. Je sais pas si j'arriverai à tenir ce rythme-là tout le match, mais ça va pas être évident. 2,50 maintenant, du coup, il y a 2 minutes de plus qui sont passés à la Méno sur un derby. Bah ouais, mais tristouné, quoi, parce qu'à huis clos, forcément, c'est un match qui est très attendu par les deux équipes. Mais là, ça se fait à huis clos et deux équipes qui ont des dynamiques un petit peu différentes. Hein. Le vent est plutôt dans le dos des Strasbourgeois qui ne sont pour l'instant que 17e face au Messin, 13e, 3 minutes de jeu, toujours 0-0.
Et tu nous diras évidemment si Habib Diallo a un traitement de faveur. Lui, l'ancien Messin, passait désormais à Strasbourg. Arthur.
Les Strasbourgeois favoris, 1,85 pour le Racing, 3,40 le nul, 4,20 pour les Messins. Attention parce que ce derby pourrait bien se jouer sur un pénalty. Strasbourg a inscrit 7 buts sur pénalty en Ligue 1 cette saison. C'est le total le plus élevé dans les 5 grands championnats à égalité avec Leicester en Angleterre.
Ok, et en tout cas, on verra ça, effectivement. Allons voir le courageux de l'après-midi. Eh oui, on l'a envoyé au bout de la France, à Brest, dans le Finistère.
Là où c'est très beau.
Qu'est-ce qu'il fait Xavier Grimaud pour Brest face à Reims. Salut Xavier.
Salut messieurs, c'est parti depuis 3 minutes.
particulièrement beau cet après-midi. Non, il fait un temps épouvantable. Il y a de la pluie, du vent, et on voit même pas la mer. Alors que pour ceux qui connaissent le blé, on a une vue magnifique normalement sur la rade de Brest. Mais c'est toujours un plaisir de venir ici. 0-0. On a vu une grosse occasion pour les Brestois. Évidemment, on va scruter de près les Rémois parce qu'ils sont en difficulté. Les Rémois barragistes avec 4 matchs sans la moindre victoire. David Guillon ne risque rien même en cas de défaite. En tout cas, on va certainement laisser passer l'orage du côté du stade de Reims. Mais malgré tout, Brest est certainement favori, notamment sur leurs deux dernières sorties à domicile. Éclatante de jeu et de spectacle avec cette victoire face à Lille et face à Saint-Etienne. 0-0, 4 minutes de jeu.
Arthur, c'est la rencontre la plus équilibrée de l'après-midi, en tout cas au niveau des cotes. C'est 2-20 pour Brest, 3-35 le nul, 3-10 pour Reims. Reims qui affiche une moyenne d'âge de 24 ans et 242 jours en Ligue 1, soit le plus jeune 11 titulaire en Ligue 1 cette saison pour l'instant.
15h04 sur RMC, vous l'avez remarqué, l'intégral foot à l'accent breton. Le patron de la Bretagne pour RMC Sport, c'est Pierre-Yves Leroux. Il a voulu évidemment punir Xavier Grimaud, du coup il l'a envoyé à Brest.
Ah non, c'est fou, c'est David Filippo. C'est David Filippo qui a dit: toi tu vas à Brest, toi tu vas à Lorient.
Avec quel patron?
Et moi, c'est moi qui décide. Moi je sais qu'il va y avoir de la bagarre à Nantes, donc je reste à Nantes.
Ah d'accord, c'est ça l'histoire. Il aime bien la castagne. David Filippo. Ok.
Moi je suis tranquille à Strasbourg.
Ah bah tu vois, oui, toi en tout cas, t'avais pas de concurrence pour ce match entre Strasbourg et Metz. 15h05, 0-0 justement entre les Strasbourgeois et les Messins. Même score entre Brest et Reims. 0-0 entre Nantes et Dijon. Et on rappelle que le premier but a été inscrit par Lorient face à Nîmes. Le point sur nos autres directs a commencé par la Formule 1. Le King est avec nous pour la dernière fois de cette année 2020. Dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi avec Max Verstappen en tête. Salut Jean-Luc.
Salut Benoît, salut Kevin, bonjour à tous. Effectivement, 28 tours couverts maintenant et Max Verstappen contrôle la situation. Il y a eu, tu le sais, un virtual safety car tout à l'heure après l'abandon malheureusement de Sergio Perez au 10e tour. La majorité des pilotes en ont profité pour repasser bien sûr par la voie des stands et chausser les pneumatiques les plus durs proposés par Pirelli. L'enjeu évidemment, c'est de les emmener au bout, mais il va encore falloir parcourir environ 26 tours et ça va être compliqué. Verstappen d'ailleurs vient de demander à son ingénieur quel était l'équipe libre de la machine. Lui, il le sent évidemment, mais comment l'ingénieur voyait, il lui a dit ça devrait pouvoir le faire. L'écart est de 7 secondes avec la Mercedes de Bottas qui est deuxième, Hamilton est troisième devant Albon et Ricciardo fait un exploit comme d'habitude en course. Il est cinquième et lui n'est pas repassé par la voie des stands pour le moment. Ça ne devrait donc pas tarder, Benoît.
Ok, eh bien, écoute, tu nous appelles dès qu'il se passe quelque chose, dès que les arrêts sont importants. On ne loupera rien de ce dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Le rugby également au programme cet après-midi avec la suite de la première journée de Coupe d'Europe. C'est reparti entre le Loup et Glau. Salut Edouard.
Salut Benoît, salut Kevin. Et de 5e essai pour le Loup de Charlie Ngataï. Un essai va-t-il être transformé à l'instant? Oui, par Jonathan Wisniewski. Et ça nous fait donc 33-10 pour le Loup qui avait déjà presque plié l'affaire. Au bout de 24 minutes, ils avaient déjà marqué, les Lyonnais, 4 essais. Xavier Mino, Nakaitasi, Roda et Bastaro. Et donc Charline Gataï qui va marquer le cinquième en l'entame de la deuxième période. 33-10 désormais, un modèle d'essai comme les autres d'ailleurs dans cette rencontre pour l'instant où les Lyonnais font vraiment un joli récital avec une accélération de Baptiste Couillou, le capitaine la semaine dernière de l'équipe de France de rugby, qui a accéléré, qui a pris appui derrière sur Charline Gataï. Celui-ci est donc allé à dames. Ça fait 33-10 messieurs au bout de 45 minutes de jeu.
Ok, merci Edouard. Toi aussi, tu nous appelles dès qu'il se passe quelque chose. Donc le Loup qui se balade pour l'instant face à Gloucester. Le biathlon également, c'est la poursuite masculine qui se dispute à Orfitzen en Autriche. Et c'est la cata pour les Français, Valentin Jamain.
En effet, salut messieurs, salut à toutes et à tous. Une course à oublier pour les tricolores qui sont habitués plutôt à jouer la gagne, à jouer les podiums. Et bien là, ils vont jouer le top 10. Énormément d'erreurs derrière la carabine. Quentin Fillon-Maillet, là, qui est le dernier relayeur et qui est en piste, vient de faire 4 erreurs. Il est donc allé tourner une fois autour de l'anneau de pénalité parce qu'il y a 3 pioches. Émilien Jacquelin en avait fait 5. Fabien Claude en avait fait 3. Donc voilà, grosse faillite au niveau du pas de tir. Et donc les Français qui, comme à Contiolati la semaine dernière, vous avez fait 8e, et bien sont très décevants sur cette course pour le moment.
Merci Valentin, on viendra te voir pour la fin de cette course, mais ça se passe mal donc pour les Français. 15h08, c'est la Ligue 1, vous le savez, qui est à l'honneur. 4 matchs en cours, un seul but marqué pour Lorient face à Nîmes. On va retourner à Nantes, retrouver David Filippo. Nantes face à Dijon, une rencontre qui a été marquée avant le coup d'envoi par les échauffourées entre les supporters nantais et les forces de l'ordre. Ils ont voulu manifester justement leur mécontentement à l'égard de la direction et surtout envers Valdemar Quittat, le président nantais. Et malheureusement, il y a eu quelques affrontements et quelques bombes lacrymogènes, David.
Oui, effectivement, à 9 minutes de jeu ici à la Beaujoire, 0-0. 0 entre Nantes et Dijon. C'est un éternel recommencement. Toutes les scènes qu'on a vues tout à l'heure, on a l'impression de les avoir déjà vues plusieurs fois hein, depuis 20 ans même, hein, même avant l'arrivée de Valdemar Quitta. Attention, on va peut-être suivre là. Moses Simon qui frappe, il est contré au dernier moment. Effectivement, une manifestation était prévue, a eu lieu, donc a débuté à midi. Il y avait à peu près 300 supporters nantais. À midi 25, ils ont déployé une banderole. Et à midi 30, ils ont souhaité, ils étaient sur un parking jouxtant les parkings du stade de la Beaujoire. Ils ont souhaité rejoindre le grand parking de la Beaujoire. Et là, à ce moment-là, dès qu'ils ont posé un pied sur le parking du stade, il y avait énormément de CRS qui étaient présents sur place. Il y avait à peu près 15 véhicules de CRS. Et bien, les CRS les ont bloqués et ont tout de suite envoyé ont jeté des gaz lacrymaux sur les supporters nantais. Donc, ça a duré, 20-25 minutes, un peu un jeu de chat et la souris entre les CRS et les supporters. Le calme est revenu à peu près vers 13h, mais on entendait évidemment les supporters nantais qui hurlaient leur ras-le-bol de la gestion sportive du président Quitta. Ils ont fait ça pendant presque une demi-heure non-stop.
Nantes qui est 14e de Ligue 1, effectivement, on rappelle le limogeage de Christian Gourcuff cette semaine, remplacé par son adjoint Colo. Le contexte est très particulier, très compliqué pour les Nantais, et ce match est crucial face à Dijon évidemment qui va lutter également pour son maintien. Faut vraiment pas perdre pour Nantes cet après-midi, Kevin.
Oui, c'est sûr. Ils sont 14e, hein. Ils sont 14e, ils ont 13 points, ils ont une toute petite marge sur les trois derniers. Mais j'ai presque envie de dire que le point de non-retour, il a été atteint la semaine dernière. Les gens comptaient beaucoup sur Christian Gourcuff. Il a un peu la fibre nantaise. Les gens avaient beaucoup d'espoir, misaient beaucoup d'espoir sur l'ancien entraîneur nantais, on peut dire ancienne maintenant. Et c'est vrai que là, 17e coach en 13 ans sous l'ère Quitta, c'est Colo, c'est le 17e coach, c'est le coach de trop. Les gens n'en peuvent plus, les supporters en tout cas, et il y en a plus qu'une, c'est pas qu'une minorité, c'est ce qu'il faut préciser, c'est que c'est un ras-le-bol quasiment général des supporters.
Kevin ?
Moi je suis d'accord avec les supporters nantais. Je connais pas exactement la gestion du président dans les détails, on va dire, de ce qui se passe à l'intérieur du club, mais j'ai quand même eu pas mal d'échos, notamment de joueurs qui sont passés par le FC Nantes ces dernières saisons. Et là, comme l'a dit David, c'est pas possible, 17 entraîneurs. C'est ridicule. Il y a un moment, là, t'avais pris Gourcuff, on savait qu'il fallait lui laisser du temps. Par contre,
souvenir comment il était arrivé Gourcuff à l'époque, quand Ali Lodzic avait claqué la porte.
Et Domenech ou Gourcuff, si je dis pas de bêtises.
À l'époque, ouais.
Enfin, je veux dire, c'était le chaud et le froid, quoi. C'était comment tu peux être un président et déjà hésiter entre deux entraîneurs, on l'avait dit à l'époque, qui n'ont rien à voir.
C'est parce qu'Ali Lodzic avait claqué la porte juste avant le début du championnat. C'était assez dingue, cette situation. Enfin, bon, ça.
Après, juste, on y reviendra dans le match, mais faudra quand même m'expliquer pourquoi Ludovic Blas est sur le banc quand même.
Bon. Je pense que Patrick Colo, à mon avis, veut aussi dire à Ludovic Blas, il a joué tous les matchs sous Gourcuff, et certains disaient en interne c'était un peu le fils de Christian Gourcuff. Il pouvait être mauvais, de toute façon le week-end d'après il était titulaire. Je pense que Patrick Colo, il a envie de montrer que c'est lui le patron, et il a fait des choix forts cet après-midi en mettant, comme tu le dis Kevin, Ludovic Blas sur le banc. Mais il devrait rentrer et il sera sans doute titulaire mercredi à Reims, l'imaginer.
Et Ludovic Blas, c'est surtout le fils du football quand même. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y en a, c'est les cousins, les arrière-grands-parents, mais dans cette équipe de Nantes, tu vois, on peut pas reprocher à Gourcuff que Ludovic Blas soit... Alors après, je le connais pas dans le vestiaire et son attitude, mais bon, enfin, je veux dire, c'est quand même le meilleur joueur de cette équipe. Donc moi, ça m'agace ce genre de choix quand un nouvel entraîneur arrive, mais bon.
Allez, 15h12 sur RMC, on va rappeler le temps et le score sur toutes nos pelouses de Ligue 1. Lorient face à Nîmes, Pierre-Yves Leroux.
Des Lorientais qui mènent après 13 minutes grâce à Boigard dès la deuxième.
Strasbourg-Metz, Sébastien Ruffet.
12 minutes 30 ici, toujours 0-0.
Brest face à Reims, Xavier Grimaud.
12 minutes 0-0.
Un petit point sur la course, le Grand Prix d'Abu Dhabi, le Grand Prix de Formule 1, dernière manche de la saison, Jean-Luc Roy.
Verstappen toujours leader avec près de 8 secondes d'avance sur Bottas et Hamilton. Albon est 4e, Ricciardo 5e. Du côté des Français, Gasly vient de s'emparer de la 8e position, Ocon est 11e.
Et le temps, le score au rugby, la première journée de Coupe d'Europe, le Loup face à Gloucester, Edouard G.
51 minutes de jeu, 5 essais à 1, 36 à 10 pour le Loup.
Et la suite de l'intégral foot dans un instant, toujours avec Kevin Diaz, la suite de nos matchs de Ligue 1, de la Formule 1, du rugby et du biathlon. Ne bougez pas, à tout de suite.
RMC Intégral Foot, Liga Uber Eats. Tous les matins dès 6h, Apolline de Malherbe est sur RMC dans Apolline Matin.
Avec à 6h50, c'est déjà demain, l'actu techno, internet, high-tech.
7h20, du pain quotidien, éco, conso, mode de vie.
Et à 8h25, Charles en campagne, l'actu politique.
RMC 6h-8h30, Apolline Matin, le grand show de l'info.
BMW. Gérer les rendez-vous, s'occuper des enfants, faire ses courses de Noël. Pour les sportifs du quotidien, il y a la BMW série 1 édition sport. Jantes 17 pouces, siège sport, projecteur LED, dès 295€ par mois. Découvrez-la avant le 31 décembre, ainsi que des offres exceptionnelles sur une sélection de BMW neuves et d'occasion disponibles immédiatement. Ouverture le dimanche selon autorisation préfectorale.
Exemple pour une BMW 1 saisie édition sport avec majoration du premier loyer de 2600€, LLD 36 mois, 30 000 km dans les concessions BMW participantes. Détails sur bmw.fr.
Demain à 21h05 sur RMC Story. 3 ans après la collision tragique entre un bus scolaire et un TER à Millas, experts et rescapés reviennent sur les circonstances du drame qui a coûté la vie à 6 collégiens. Hors de contrôle, c'est demain dès 21h05 sur RMC Story. Canal 23.
RMC Intégral Foot, Liga Uber Eats.
Benoît Boutron.
Avec Kevin Diaz jusqu'à 17h sur RMC, la Ligue 1, la Formule 1, le rugby et même un peu de biathlon. Vous êtes gâtés cet après-midi avec nous. On va retourner justement sur les pelouses du championnat de France, à commencer par le derby entre Strasbourg et Metz, Sébastien Ruffet.
On arrive doucement au quart d'heure de jeu ici, toujours 0-0 et gros début de partie des Strasbourgeois qui étouffent totalement des Messins qui pour l'instant n'arrivent pas à sortir, même si là, à la faveur d'un débordement de Thomas Delaine, ils ont obtenu un corner, même si les Strasbourgeois réclamaient une petite poussette dans le dos sur Mohamed Simakan. Mais donc première situation à venir pour les Messins, alors que la première action dangereuse a été pour les Strasbourgeois tout à l'heure, mais on va y revenir. Le corner tiré par Boulaye, attention dans l'axe, c'est Djikou qui va repousser, finalement Lienard va réussir à dégager une deuxième fois ce ballon. Je vous le disais, après un joli petit numéro de Thomasson au milieu du milieu de terrain, devant les 16 mètres, il se défait de 3 Messins, réussit à donner à Cassie qui centre de la gauche, ça arrive sur Habib Diallo qui frappe en pivot, c'était à côté évidemment, mais c'était la première situation vraiment dangereuse pour les Strasbourgeois qui, je vous le disais, ont un petit peu le vent dans le dos par rapport aux Messins, parce qu'ils ont réussi à accrocher le match nul face à Rennes, hein, d'abord en jouant à 11 contre 10, on s'en rappelle, pendant plus d'une heure, enfin 10 contre 11 plutôt, avant d'aller chercher une belle victoire à Nantes la semaine dernière 4-0. Donc ça va mieux, ça concrétise un petit peu ce qu'on voit dans le jeu depuis quelques semaines, où ça va un petit peu mieux, alors que les Messins, eux, eh bien, étaient sur une très belle série d'invincibilité. Ils ont perdu leurs 2 matchs à domicile face à Brest et Lyon. Du coup, bah voilà, on se dit que ce match là, c'est, si on regarde le classement, bah Metz a un peu plus de certitude, voilà. Mais
sur
en
la
ce
forme
moment,
du moment, c'est plutôt Strasbourg.
Voilà, c'est ça, sur la forme du moment, et le début de cette partie le confirme nettement. On sent vraiment des Strasbourgeois très agressifs, vraiment concernés par ce qui se passe, et pour l'instant les Messins qui ont un peu plus de mal à sortir ces ballons.
Il est 15h16 sur RMC. Je précise qu'on fera également le quintet en direct à Vincennes, un quintet important, quintet retardé, parce que le cheval de Manu Amoreau s'est parti avant les autres. Du coup, pour rattraper le cheval de Manu, avant de pouvoir lancer la course, on trouvera Mathieu Zaccanini en direct de Vincennes, qui pourra nous raconter tout ça. Allons à Beaujoire, Nantes face à Dijon, David Filippo.
17 minutes de jeu dans cette rencontre, 0-0, pas d'occasion franche, même si tout à l'heure Simon s'est retrouvé à 5 mètres de la cage, il a trouvé le moyen de frapper sur Ratchopi, Anthony Ratchopi, le gardien dijonnais, mais de toute façon le but aurait été refusé, il était largement hors jeu, l'attaquant du FC Nantes. On les sent extrêmement tendus, hein, les Canaris, c'est d'ailleurs plus les Dijonnais qui ont le monopole du ballon, comme on le voit là avec Samaritano sur le côté gauche. Qu'est-ce qu'il va faire Samaritano, qui va pouvoir décaler le centre peut-être venant de la gauche, attention, il a bonne prise de balle de Lafond. 18 minutes de jeu ici à la Beaujoire, 0-0 entre Nantes et Dijon.
Allez, le seul but inscrit de l'après-midi, il est pour Lorient face à Nîmes, Pierre-Yves Leroux.
Ouais, c'est un peu comme le cheval de Manu Amoros, les Lorientais, ils sont partis quasiment avant le début.
Pierre-Yves, information importante que nous donne Mathieu Zaccanini, comme les chevaux sont programmés, il faut attendre que le cheval fasse les 3 tours pour pouvoir
génial.
Lancer la course.
Non. C'est extraordinaire.
C'est vrai. Du coup, tout le monde attend que le cheval termine ses 3 tours, quoi, le pauvre. Enfin bon, bref.
C'est vrai qu'il est pressé un peu, ça peut durer un moment. 1-0 ici pour les Lorientais, donc ce but inscrit très très vite à 2e minute par Boisgard, les Lorientais qui dominent pour le moment cette première partie, 2 premières périodes, 18 minutes exactement, et avec 4 tirs, un seul cadré, mais il est allé au fond pour Boisgard. Les Nîmois ont difficulté, la technique, un ballon par exemple qui va directement en touche sous le regard un petit peu dépité de Jérôme Arpinon. 1-0 donc pour les Lorientais.
Sale période effectivement pour les Nîmois, 19e de la Ligue 1 pour l'instant. Allons sous le crachin finistérien, Brest face à Reims. Xavier Grimaud.
Fake news, il ne pleut plus.
Ah bah ça va alors.
Et je vois la
mer. Faut essuyer la caméra parce que nous on voit encore les gouttes.
Ouais. Ah, mais ils ont tout lâché, je crois, téléfoot. Ils essuient même plus la caméra.
Non, mais c'est dingue parce qu'on voit vraiment pas bien en fait.
Toujours 0-0. En tout cas, 18 minutes de jeu, match plutôt équilibré, mais les Rémois font un petit peu mieux avec le ballon quand même. Il y a du déchet technique du côté des Brestois. On n'a pas vu vraiment une véritable situation offensive bien menée par les Finistérien, mais voilà, ça reste équilibré. Il n'y a pas eu de grosse occasion. On va suivre quand même Honora à côté droit pour Brest avec Pierre Gabriel qui a repiqué dans l'axe, qui va revenir derrière vers Arif Belkebla, mais c'est un petit peu arrêté tout ça. On va repasser vers Romain Fèvre qui s'est exilé côté droit, mais finalement on revient derrière à nouveau vers Belkebla. 0-0 entre Brest et Reims. Le centre d'Honora, deuxième poteau, la tête de Mounier, piqué, ça partait sous la barre. Est-ce que c'est claqué? Est-ce que c'est claqué par Rajkovic? Oui, il y aura un corner. Corner à suivre pour les.
Mounier, s'il avait pu marquer.
Ah ouais, ça aurait été pas mal pour toi, mais je pense que la tête, elle était tellement piquée qu'elle devait passer au-dessus. Peut-être que Rajkovic prend un petit peu la sécurité là en claquant ce ballon en corner, corner qu'on va pouvoir suivre si tu veux.
Allez, vas-y, fais le programme,
Benoît, sur la gauche, ouais, sur la gauche en regardant les buts de Rajkovic, le gardien du stade de Reims, les Rémois qui n'ont pas gagné depuis 4 matchs.
T'as raison, il n'y a pas forcément besoin de la toucher, hein, Kevin, on voit ça. Ouais. Bon, après, c'est de la sécurité.
Ouais, on va pas lui reprocher d'être. Ouais. D'être prudent.
Évidemment, le corner tiré de la gauche par Romain Fèvre. Il y a un petit cafouillage, c'est dégagé par la défense rémoise et une demi-volée de Franck Honora ou de Paul Lannes qui est capté par Rajkovic. 0-0, 19 minutes de jeu.
Allez, 15h19 avant de retrouver Jean-Luc pour la Formule 1, le Grand Prix d'Abu Dhabi, c'est compliqué à dire. Orpitzen, exactement, le biathlon, c'est terminé pour les Français, hein, Valentin Jamin.
Orpitzen ou Abu Dhabi, Benoît? C'est ça la question. Les Français qui ont terminé
Le biathlon, c'est peut-être plus pratique à Orpitzen.
Les Français qui ont terminé 6e de ce relais. Grosse déception à près de 2 minutes de la tête du relais remporté par la Suède. La Norvège est 2e, l'Allemagne est 3e. Mais grosse faillite derrière la carabine. Et après la 8e place en relais à Contiolahti, les Bleus qui n'y arrivent pas. Donc 6e à Orpitzen en Autriche.
Merci Valentin et bonne soirée à toi. Justement, allons-y. La Formule 1, la dernière manche du championnat du monde. Max Verstappen, toujours en tête de ce Grand Prix, Jean-Luc.
Absolument, à Yas Marina, c'est peut-être plus facile à dire, Benoît, effectivement.
Yas Marina, je note.
Je t'en prie. On est à 20 tours de l'arrivée. Verstappen contrôle parfaitement la situation. L'inquiétude, on l'a bien compris, c'est si les pneus peuvent aller jusqu'au bout. Ils ont changé de pneumatique au 10e tour, donc ça ferait 45 tours sur cette pneumatique dure. Ça va être l'exploit à accomplir pour Verstappen, qui contrôle pour le moment les deux Mercedes de Bottas à un peu plus de 8 secondes et d'Hamilton 3 secondes.
Pénalty pour Nantes.
On arrive, David. Vas-y, Jean-Luc.
Et arbitrage vidéo à Brest.
Oui, bon, on arrive.
Voilà, donc une Red Bull Honda devant les deux Mercedes. Albon est toujours un très bon quatrième et c'est Ricardo qui fait l'exploit. Ouais. Pour son dernier Grand Prix chez Renault, eh bien, il est parti avec les pneumatiques dures, il les emmène et il est toujours extrêmement rapide, il est toujours cinquième. Bon, il va devoir s'arrêter tôt ou tard, évidemment. Il précède les deux McLaren de Norris et Sainz. À ce propos, d'ailleurs, pour le moment, eh bien, c'est eux qui s'empareraient, évidemment, de la troisième place au championnat constructeur pour McLaren, puisque Pierre Gasly est un excellent huitième avec la première des AlphaTauri. Lance Stroll défend seul depuis l'abandon de Perez au 10e tour les couleurs de Racing Point et Esteban Ocon vient d'entrer dans les points. Il est dixième à signaler la remontée de Charles Leclerc, okay, qui est reparti dernier tout à l'heure et qui est maintenant 13e de ce Grand Prix de Yas Marina.
Merci Jean-Luc, on te retrouve rapidement. Le pénalty à Nantes, vous avez vu, tiens, Breton qui parle, il faut que l'autre parle exactement.
Oui, pardon, attention, le pénalty, la faute sur Renaud Aymon, c'est Moses Simon, l'attaquant nantais, qui est face à Anthony Ratchopi. On joue la 23e ici au stade de la Beaujoire. Attention, mais je crois que l'arbitre est en train de voir. Voilà, c'est le VAR en fait, hein, tout simplement.
On va juste préciser qu'à Brest, là aussi,
c'est la même chose, exactement. C'est pour un bras de Mounetzi sur.
Est-ce que t'as les images,
ouais, sur le corner, le ballon qui arrive sur le bras, hein, effectivement, Mounetzi, le bras est quasiment à l'équerre au niveau de l'épaule.
Ouais. C'est compliqué à siffler, ça. Hein.
Moi, ouais, je pense qu'il va siffler.
Moi aussi, je pense qu'il va siffler. C'est un peu dur pour les Rémois, malheureusement.
Bah, on sait que normalement, le bras doit être au-dessus de l'épaule. Alors là, il n'est pas au-dessus, il est au niveau de l'épaule. Donc après, c'est toujours l'interprétation
en
des
manche,
arbitres.
Pour préciser, on a vu les images entre Nantes et Dijon. Pour nous, il y a pénalty.
Il y a pénalty, mais il y avait peut-être. Ouais, ça y est, c'est confirmé. Hein, confirmé. On pensait qu'il y avait peut-être hors-jeu de Renaud Aymon. Mais en fait, non, c'est bon. Il vient de montrer point de pénalty. Et c'est bien Moses Simon, hein, qui va frapper ce pénalty. Il est face à Anthony Ratchopi. Il faisait pas un très bon début de match, hein, les Nantais. Ils avaient même fait plutôt une meilleure entame la semaine dernière lors de la défaite 4-0 contre Strasbourg. Voilà, l'arbitre, monsieur Gauthier, qui est en train de demander à tous les joueurs de bien rester à distance réglementaire, de ne pas entrer dans la surface de réparation avant que Moses Simon ne touche le ballon. L'attaquant nantais en grosse difficulté en ce début de saison. Moses Simon face à Ratchopi. Attention, est-ce qu'il va y aller? Voilà, Moses Simon qui frappe et qui marque l'ouverture du score nantaise après 24 minutes de jeu ici à la Beaujoire. 1-0 pour le FC Nantes sous les yeux de Valdemar Quita et Franck Quita, son fils. 1-0 pour les Canaries.
Et c'est son deuxième but seulement cette saison pour Moses Simon. Deux buts et une passe décisive pour lui.
C'est bien frappé.
Ouais, très bien frappé. Et ça fait 1-0 pour les Nantais qui se donnent de l'air face à Dijon. Pas de pénalty donc à Brest pour les Brestois.
Non, exactement. On peut imaginer que c'est la règle que tu disais, hein, Kevin. Le bras n'était peut-être pas vraiment au-dessus de l'épaule. Donc voilà, ça semble pas scandaleux pour.
C'est compliqué de dire qu'il a fait exprès.
Ouais, non, c'est normal parce qu'en fait, il y avait eu un pénalty comme ça l'an dernier face au PSG, je sais plus contre qui, où il y a un joueur qui tient son adversaire à distance et le ballon lui tombe sur le bras.
Ah oui, moi, je me souviens.
Moi, je pense que l'arbitre a raison. Là, c'est un geste qui est naturel. Bon, le ballon lui tombe sur le bras. Alors, on a vu énormément de pénalty sifflés comme ça, mais je trouve que c'est la bonne décision.
Exactement. 15h24 sur RMC. 1-0 pour Nantes contre Dijon. Même score pour Lorient face à Nîmes. 0-0 entre Brest et Reims et entre Strasbourg et Metz. Justement, vous le savez, tous les dimanches après-midi, on vous propose des portraits de joueurs de Ligue 1. On aura l'occasion d'en faire aujourd'hui, notamment Romain Perrault, le Brestois avec Xavier, Andréo Gravillon, le joueur défenseur de Lorient avec Pierre-Yves, ou encore Kawashima avec Sébastien Ruffet. On va y aller dans un instant, justement, le point sur le derby avec toi, Seb.
Eh bien, on joue depuis presque 25 minutes et toujours 0-0 et des Messins qui essayent timidement de sortir, mais je regardais, c'est un petit peu ce dispositif. Fred Antonetti qui a opté pour une défense à 5 mais avec des latéraux qui sont quand même assez bas. On a une sorte de 5-3-1-1 si vous voulez, avec Boulaya qui est un peu en soutien de d'Opa Nguette devant et un système qui fait partir les Messins de très bas et qui les empêche vraiment de ressortir des ballons et de pouvoir se projeter, on va dire, vers le but strasbourgeois qui eux pressent assez haut et c'est très compliqué pour les Messins. On sent vraiment les strasbourgeois qui sont là, voilà, qui font bien circuler le ballon, qui cherchent un petit peu le décalage sur les ailes. Mais j'ai pas envie de vous mentir non plus. C'est pas le match de la décennie.
C'est ce que j'allais dire, Sébastien.
Non, mais parce qu'on voit, je rigolais parce que je voyais Antonetti et Loret, ils n'arrêtent pas de s'agacer sur les passes manquées, les mauvais choix de leurs joueurs. Et alors, il y a peut-être parfois un peu de précipitation, peut-être que les joueurs veulent peut-être faire un peu trop bien parfois en allant au pressing, en essayant de jouer vite, alors que parfois il y a une solution qui peut être un petit peu plus simple. Là, comme voilà, encore une fois, une passe de Dylan Brown là, qui n'arrive pas dans les pieds de Victorien Angban devant lui. Voilà, c'est pas mal de déchets techniques quand même pour l'instant dans ce match qui tarde un petit peu à se décanter, même si les Strasbourgeois ont eu en début de match une belle opportunité. 25 minutes 30 et toujours 0-0.
Allez, un petit détour au rugby, c'est la Coupe d'Europe, la première journée, le Loup face à Gloucester, Edouard G.
Ouais, on a dépassé l'heure de jeu, 61e minute de jeu et peut-être le 7e essai pour les Lyonnais. On en est loin encore, on est aux 40 mètres puisque les Lyonnais ont marqué un 6e essai, le doublé pour Xavier Mignot. Et puisqu'on est à Gerland et puisqu'on est dans une après-midi de foot, eh bien Toby Arnold, il a fait s'est fait une petite passe à lui-même du pied et du coup il va y avoir, oui, l'essai, il va y être cette fois-ci. Xavier Mignot pour le triplé, oui le triplé. Est-ce que cet essai va être accordé? Et oui, cet essai est accordé, donc ça nous fait un 7e essai, le triplé pour Xavier Mignot qui était l'homme en forme déjà avant son 2e essai et encore plus avec ce 3e. Il est dans tous les bons coups, le 3 quarts lyonnais. Et donc je vous le disais pour vous décrire le précédent essai mais aussi celui-là, et bien Toby Arnold à chaque fois se fait une petite passe à lui-même au pied parce qu'on est à la manière d'un footballeur. Et finalement à la réception il y a donc Xavier Mignot et ça nous fait désormais 46-10 la balade lyonnaise. Ils voulaient exister en Coupe d'Europe enfin pour leur 3e campagne européenne. Et bien les Lyonnais sont là, 46-10 en attendant la transformation.
Ça y est, on a arrêté le cheval de Manu Amoros à Vincennes, du coup on a lancé le quintet. Mathieu Zaccanini, salut Mathieu.
Salut Benoît, on arrive dans le tournant final de cette magnifique épreuve puisqu'il s'agit de la deuxième qualificative au Grand Prix d'Amérique. Les trois premiers sont qualifiés directement pour ce Grand Prix d'Amérique. C'est une compétition disputée sur la distance des 2850 mètres, et on arrive dans le dernier tournant final. On va bientôt entrer dans la ligne droite et voilà le champion FaceTime Bourbon qui est toujours en tête, qui tente de s'échapper alors que Valzer Di Poggio, le numéro 1, semble encore avoir des ressources. Mais FaceTime Bourbon est vraiment trop fort, le champion, le tenant du titre du Grand Prix d'Amérique, qui semble s'envoler et qui va certainement se qualifier, va terminer premier. Attention à son extérieur quand même, il y a une très belle fin de course du numéro 4. On va revoir ça parce que il y a eu des petits problèmes techniques pour être tout à fait franc avec vous, mais on va regarder. En tout cas, il y a net et sans bavure, très belle victoire de FaceTime Bourbon qui s'est envolé. Et c'est rare de le voir dans cette configuration parce qu'il a fait tête et corde, il a pris très rapidement les commandes, il s'est envolé dans la ligne droite, il est reparti de plus belle, il s'impose. C'était l'entraînement de Sébastien Garato. C'est sans coup férir, il devait pas participer à cette compétition, mais il s'impose en deuxième position. On va voir parce qu'il y a photographie, il y a deux chevaux qui semblent assez près les uns des autres. En tout cas, pas de problème pour FaceTime Bourbon. La deuxième place est revenu au numéro. La deuxième place est revenue. Attendez, excusez-moi, il y a une photographie encore.
Ouais, Mathieu, prends ton temps parce qu'il y a un but justement.
Ah bah d'accord.
Lorient et Nîmes, pas vas-y, Pierre-Yves Leroux.
le pénalty pour les Lorientais qui est transformé par Pierre-Yves Hamel. La faute de Fomba sur Abergel. Ça fait 2-0 pour les Lorientais face au Nîmois. Après un petit peu moins d'une demi-heure de jeu, le break est peut-être déjà fait pour les Morbihanais.
Ouais, on pourra faire le point d'ailleurs sur ce pénalty. On n'était pas d'accord, Pierre-Yves. Je sais pas si toi t'as eu les images, pénalty ou non.
Je les ai pas revues derrière.
Kevin disait non, moi je disais oui. Pour
à vitesse réelle, j'avais tendance à dire oui, mais c'est loin de moi, c'est loin de moi.
Ok, écoute, on va retourner à Vincennes, retrouver Mathieu Zaccanini pour la photo finish de ce quintet à Vincennes.
Exactement, Benoît, cette fois-ci, on a l'arrivée, on a le photo finish. Donc, victoire du numéro 16, FaceTime Bourbon. Donc, comme je vous ai dit, victoire sans coup férir de ce crack, de ce champion de Sébastien Garato. La deuxième place est revenue à l'outsider, finalement, le numéro 3, Victor Ferme, hein, qui crée la surprise. Autre surprise, puisqu'il s'agit du numéro 7, Money Viking, qui se classe 3e. La quatrième place est revenue un peu décevante, hein, la tenante du titre, double tenante du titre de ce prix du Bourbonnais. Il s'agit du numéro 11, Delia Dupomereux. Et enfin, c'est le numéro 9, Drôle de Jet, qui s'est classé 5e. Donc, en dehors du numéro 16, FaceTime Bourbon, le champion, il est arrivé de deux surprises, ce qui nous donne en chiffres 16, 3, 7, 11 et 9. L'arrivée est encore provisoire sur l'hippodrome de Vincennes.
PMU, que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Et on remercie Mathieu Zaccanini. C'est dommage parce que Kevin Diaz avait joué effectivement le 9, Drôle de Jet. C'était ton cheval.
J'aurais plutôt joué le 11 pour le coup.
Bon, le pénalty à Lorient, t'avais un doute toi, Kevin.
Bah après, c'est toujours l'interprétation. Alors, c'est ce qu'on disait hier soir. Il y a contact, mais pour moi, c'est très léger. On va dire que l'attaquant joue bien le coup. L'arbitre prend sa décision. Bon. Ouais. Tant mieux pour les Lorientais.
2-0 donc pour Lorient contre Nîmes. On va faire le point sur tous les autres scores, justement, à commencer par la Beaujoire Nantes face à Dijon, David Philippot.
31 minutes de jeu, 1-0 pour le FC Nantes. Le but de Moses Simon à la 24e sur penalty.
Quel but de Franck Honorat pour le Stade Brestois. Magnifique, magnifique but. Il est à 25 bons mètres, largement. La frappe rectiligne qui finit dans le petit filet. Régalez-vous, messieurs. Superbe frappe de Franck Honorat. 1-0 pour Brest.
C'est la fête de la Bretagne cet après-midi sur RMC. Lorient, Nantes et Brest qui mène au score. Désormais, magnifique frappe de la part de Franck Honorat. On en parlait un petit peu hier avec Gauthier Larsonneur. Souviens-toi, Kevin, cette équipe brestoise hallucinante. En tout cas, au niveau du jeu, ça envoie des frappes de tous les côtés. Et ça paye une nouvelle fois cet après-midi. Quel but d'Honora, hein.
Ouais, c'est vrai que cette équipe, elle est vraiment spectaculaire. Cette frappe, elle est magnifique.
Ah ouais.
Elle est vraiment coup de pied. Tu vois, là, c'est pas extérieur, pas intérieur, c'est plein coup de pied avec les lacets.
Et ce qui est dur, c'est qu'il frappe ça alors qu'il est en pleine course.
Ouais, ça, il est en pleine course, ouais. Presque ouais. En bout de course, même au niveau de la frappe. Regarde, il va la chercher loin, mais presque de la cheville, il la prend. Et elle part tout droit. Exactement. Dans le petit. Et t'as oublié de dire pour la fête de la Bretagne, la victoire de Rennes.
Et victoire de Rennes à Nice en début d'après-midi, t'as raison, Arthur.
Et Kevin, c'est déjà le 4e but pour Franck Honorat et 3 passes décisives aussi pour lui depuis le début de la saison.
Ouais, très bon début de saison et c'est un joueur spectaculaire et c'est un joueur qui fait du bien à la Ligue 1 parce que comme t'as dit, il marque toujours de super buts. C'est lui qui avait marqué à Dijon, non? Ce ciseau. C'est Cardona.
Non, c'était Cardona.
C'est Cardona.
Arbitrage vidéo à Nantes.
Ouais, 32 minutes de jeu, 1-0 pour le FC Nantes. But de Moses Simon sur penalty et une main dans la surface de réparation d'un Dijonais de Panzo d'ailleurs. C'est lui qui avait déjà fait faute sur Moses Simon. Eh ben non, finalement, c'est assez surprenant parce qu'on a vu des mains exactement similaires il y a quelques semaines ici à la Beaujoire et il y avait penalty.
Là,
donc
siffler,
bon. Non, non, mais David, c'est exactement la même qu'on vient de voir il y a quelques secondes, il y a quelques minutes à Brest.
À Brest,
c'est-à-dire
ouais.
Que le bras n'est pas au-dessus de l'épaule. Alors oui, il est
décalé. Sauf qu'à Brest, j'ai l'impression que le défenseur voit pas le ballon alors que là, il le voit.
Ouais, mais c'est à bout portant la tête.
Ouais.
C'est ça. Donc tu peux pas l'enlever. Non, c'est. Je trouve que cette règle, elle est plutôt claire maintenant, même si bon, alors les supporters diront toujours, comme t'as dit, ouais, c'est vrai que la semaine dernière, ou il y a deux mois, on nous l'a sifflé. Mais je trouve que c'est plutôt clair maintenant.
Allez, 15h32 sur RMC, c'est l'intégral foot. Je vous rappelle les scores en cours. 1-0 pour Nantes contre Dijon, 2-0 pour Lorient face à Nîmes, 1-0 pour Brest contre Reims, 0-0 dans le derby entre Strasbourg et Metz. Le point sur la Formule 1, on s'approche de la fin avec toi, Jean-Luc Croix. Hein.
Et oui, encore 13 tours, effectivement, Benoît, sur ce tracé de Yas Marina. C'est toujours Max Verstappen qui est le leader incontesté, incontestable, avec près de 10 secondes d'avance maintenant sur Valtteri Bottas. Il contrôle pour le moment, les pneumatiques tiennent le coup. C'était la question posée aux ingénieurs. Le troisième, eh bien, c'est Lewis Hamilton, un peu diminué, on l'a dit, de retour de cette maladie qu'il avait éloigné du Grand Prix de Shakir la semaine dernière. Eh bien, Hamilton est troisième à environ 2 secondes et demie de Bottas. Albon, un solide quatrième, il est certainement en train de sauver son baquet pour la saison 2021 chez Red Bull, mais y avait-il suspense? Et puis derrière, les deux McLaren de Norris et Sainz qui devraient assurer avec ces très belles places la troisième place au championnat constructeur pour McLaren, et Daniel Ricciardo qui fait un véritable festival, septième avec la Renault, l'autre, le français Ocon avec l'autre Renault est dixième, et Pierre Gasly est huitième de ce Grand Prix.
Un pénalty pour Metz dans le derby à Strasbourg, Sébastien Ruffet.
Ah ouais, c'est totalement contre le cours du jeu, mais très bon ballon d'Angban pour Fabien Santonze sur le côté droit qui ramène un magnifique centre. Le contrôle de Maïgan, on va revoir, qui tente la frappe et ça vient frapper effectivement le bras de Mohamed Simakan qui essaie de s'enlever, mais ouais, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de discussion possible, hein, indiscutable.
Ouais, t'es obligé,
parce que tu es obligé. Tu peux pas faire autrement parce qu'il est à 6-7 mètres du but, il frappe. Voilà, le bras est décollé du corps, ça empêche le ballon d'aller vers le but. Il y a aucune discussion possible. Et pénalty donc pour les Messins à cette 34e minute, alors qu'ils ne sont pratiquement pas sortis vers les 16 mètres adverses depuis le début de la partie. Je vous le disais, un match pratiquement à sens unique pour les Strasbourgeois, même si ça manque d'occasion.
Décidément, ce multi, c'est une histoire de main.
Ouais,
alors,
ouais.
Je comprends ce que tu dis, Sébastien. C'est vrai que le ballon va vers le but, mais la nouvelle règle, c'était si c'est en dessous de l'épaule, normalement, tu siffles pas. Mais
ouais,
bon,
mais là, tu peux
le problème, c'est que s'il la touche pas, il y a but. Donc, je peux comprendre.
Ouais, bah oui, là, disons que là, c'est une frappe qui est cadrée.
Qui va au but.
Qui va au but, tu peux pas.
Mais le pire dans cette histoire, c'est qu'il met un carton jaune à Simakan.
Oui, là, par contre, il a dû mettre un carton.
On lui frappe dessus à bout portant, il a la main qui traîne et on lui met un carton jaune.
Oui, ça, je suis d'accord. Et c'est Dylan Brown qui va s'en charger. C'est pas Farid Boulaya qui avait raté dimanche dernier contre Lyon. On s'en rappelle après 7 minutes de jeu seulement. C'est donc le capitaine défenseur international tunisien. On en reparlera, tiens, si on a un dimanche après-midi avec les Messins de Dylan Brown, parce qu'il a un drôle de parcours également. Il est face à Eiji Kawashima, joueur d'expérience évidemment. C'est parti pour Dylan Brown. Il est passé, c'est dedans. Alors que Kawashima était parti du bon côté, on a cru un petit instant qu'il avait pu la dévier. Mais non, c'est au fond le but donc pour le FC Metz après 35 minutes de jeu ici contre le cours du jeu à la Méno. Metz mène 1-0 face à Strasbourg.
Alors elle est presque passée inaperçue, mais j'ai beaucoup apprécié la blague de Pierre-Yves Leroux. Dylan Brown, ce sera le portrait rasoir. Bravo Pierre-Yves.
Une blague au poil.
Une bonne note. Une blague au poil. En plus, il rajoute. Qu'est-ce qu'il est fort. Et tu t'y connais en rasoir, Pierre-Yves Leroux.
Ah oui.
Bravo. Toi, tu es un
très équipé.
15h35 sur RMC. 2-0 pour Lorient contre Nîmes. 1-0 pour Nantes face à Dijon. 1-0 désormais pour Metz à Strasbourg et 1-0 pour Brest à Reims. On se quitte quelques secondes et on vit ensemble la fin des premières périodes et la fin de la Formule 1, le Grand Prix d'Abu Dhabi, la dernière manche de la saison. À tout de suite.
RMC Intégral Foot, Ligue 1 Uber Eats.
Benoît Boutron.
Et oui, jusqu'à 17h sur RMC, une spéciale arbitrage. Cet après-midi, je vous le dis, il y a des mains dans tous les sens, des pénalties frappées à retirer. On va faire le point sur tout ça. Je vous rappelle les scores en cours. 1-0 pour Metz à Strasbourg, 1-0 pour Nantes contre Dijon, 2-0 pour Lorient contre Nîmes. Et donc ce pénalty entre Brest et Reims qui a été frappé et arrêté, mais est-ce qu'il va être retiré, Xavier?
Non, il va pas être retiré. On a vraiment cru parce que je crois que les Rémois l'ont cru aussi parce qu'ils se sont précipités sur Monsieur Petit. On va vous refaire la scène avec un pénalty sifflé à la 36e. Ronald Pierre-Gabriel, juste à l'angle de la surface de réparation, qui prend un petit raffut du bras, c'est vrai, dans le visage en essayant de déborder Ghislain Conan. Vitesse réelle, moi j'étais très surpris en revoyant les images, messieurs. Il y a le bras effectivement qui va au visage, qui fait une petite obstruction à Pierre-Gabriel. En tout cas, Monsieur l'arbitre n'a pas hésité, il a sifflé dans la seconde. Et pénalty tiré, manque un petit peu de puissance et d'angle de la part de Steve Mounier. Il y a une magnifique main droite bien ferme de Rajkovic pour le sortir. Reims s'en sort bien car Reims n'est mené qu'un but à 0, la 39e.
C'était pas très bien frappé, hein.
Ça manquait un peu de peps.
Bah moi je trouve que c'est surtout très très bien arrêté par Rajkovic, parce que j'en parlais avec Arthur pendant la pub. Il y a tellement peu de pénalty maintenant qui sont arrêtés avec cette nouvelle règle où le gardien justement doit absolument avoir le pied sur la ligne. Donc forcément, bah dès que c'est vraiment dans le petit filet, c'est quasiment impossible à aller chercher. Mais Rajkovic, regarde là, il a bien le pied à l'intérieur et non, il a la main ferme, la main opposée. C'est un bel arrêt.
Après là, t'as presque à faire un spécialiste, hein. Rajkovic, c'est 6 pénalty arrêtés sur 9 subis. Donc c'est aussi que lui est très à l'aise dans cet exercice-là. Tu sais, mais il faudra regarder. T'as raison.
Tu sais pourquoi il est à l'aise? Parce qu'il est grand. Aujourd'hui, si t'es pas grand, tu peux pas aller chercher le ballon à ras du poteau. C'est impossible en ayant le pied sur la ligne.
C'est quand même énorme comme stat. 6 sur 9.
Ah, c'est incroyable.
C'est un taux de réussite assez incroyable. Ouais,
c'est plus de 60%.
Presque un spécialiste. Ouais. On y est presque.
Exactement. Allons-y. Il y a une énorme occasion pour Dijon à Nantes, David Philippot.
Ouais, effectivement. Quelle occasion pour Frédéric Samaritano sur un centre venu de la gauche. 1-0 hein, pour le FC Nantes. Le but de Simon sur pénalty à la 24e. Le centre venu de la gauche. Palois n'arrive pas à dégager le ballon. Et finalement, ça arrive dans les pieds de Samaritano. Samaritano qui frappe. Alban Lafont est battu, mais c'est le défenseur nantais Fabio qui sauve sur sa ligne, le superbe geste du défenseur brésilien du FC Nantes. Et juste avant, énorme occasion pour les Canaries, le centre de Corchia venu de la droite. Aymon de la tête était un tout petit peu court. Au deuxième poteau, Simon, le buteur de la journée, qui loupe complètement sa reprise. On en reste donc à 1-0 pour le FC Nantes après 41 minutes de jeu ici en première période.
Que se passe-t-il dans le derby entre Strasbourg et Metz avec toi, Sébastien Ruffin?
Et bah depuis le but messin à la 35e sur ce pénalty de Dylan Brown, ça s'est un petit peu agité, on va dire, avec les Messins qui étaient pas loin de faire le but du chaos avec le centre de Thomas Delaine qui arrivait sur la tête de Tchibembe, lancé à peine vitesse au niveau des 6 mètres. Sa tête est passée au-dessus, il n'a pas réussi à la rabattre, à la piquer. Ça aurait pu être très très dangereux pour Eiji Kawashima. Et dans l'autre sens, et bien ce même Thomas Delaine qui est un peu partout là, sur son côté gauche, qui est revenu in extremis chipper un ballon alors que Mehdi Chaheri avait glissé un petit ballon là sur le côté droit pour Habib Diallo qui s'apprêtait à frapper pleine surface de réparation. Et Thomas Delaine qui est passé par là, qui a juste chippé ce ballon au dernier moment pour le dégager, parce que là ça aurait pu faire grosse occasion pour les Strasbourgeois qui essayent de repartir de l'avant. Et clairement on a une équipe de Strasbourg qui depuis le début de la partie tente de combiner, de trouver des solutions, et une équipe de Metz, je dirais, avec un dispositif où on est venu pour se rassurer, pour surtout pas concéder beaucoup d'occasions, pas prendre de buts si possible après ces deux défaites d'affilée à domicile. Et pour l'instant c'est plutôt le plan messin qui du coup est valorisé, on va dire, alors que c'est pas forcément ce qu'on préfère dans le foot, mais voilà, pour l'instant c'est le pari de Fred Antonetti. Et c'est en train de fonctionner à 4 minutes de la mi-temps.
Exactement. Allons également au Moustoir, retrouver Lorient qui mène tranquillement face à Nîmes, hein, Pierre-Yves Leroux.
Oui, c'est vrai que c'est une bonne première période pour les hommes de Christophe Pélissier qui devaient se rassurer. 42e minute, ils mènent 2-0. J'ai fait un petit calcul. Ils n'avaient pas marqué pendant 552 minutes, près de 2 mois, 4 jours près, sans marquer. Hein. C'est pas sans gagner un match, non. C'est sans faire trembler les filets.
Ah, c'est incroyable.
C'est long, hein, 2 mois. Ouais. Et je pense qu'ils commençaient vraiment à douter. Donc là, forcément, ils se remettre un peu plus en confiance, et on le voit dans les actions, c'est plus facile. En revanche, pour les Nîmois, bien évidemment, c'est un petit peu plus dur. Et d'ailleurs, au classement général, eh bien, ils revoient les Lorientais leur passer devant ex aequo avec 11 points. Il reste 3 minutes à jouer dans cette première période. 2-0 pour les Lorientais.
Je sais pas ce que t'en penses depuis le stade, Pierre-Yves, mais Nîmes, c'est inquiétant quand même.
Oui.
C'est inquiétant parce que c'est une équipe qui a du cœur, mais footballistiquement, on voit des passes ratées, comme t'as dit, depuis le début de cette première période. C'est très compliqué.
Oui, et puis là, encore un centre à l'instant où le joueur ne regarde pas, ne lève pas la tête. Forcément, il n'y a personne à l'arrivée. C'est Eliasson là, qui fait ce centre. Donc voilà, le manque de confiance, il était pour les deux équipes. Il est un peu plus pour les Nîmois, évidemment, mené 2-0 maintenant.
Allez, 15h42 sur RMC, le point sur la course, le Grand Prix d'Abu Dhabi, dernière manche du championnat du monde. Il reste moins de 5 tours à courir, Jean-Luc Roy.
Tout à fait, Benoît. 50 tours couverts sur les 55 à parcourir de ce tracé long de 5 km 554 ici à Abu Dhabi, le tracé de Yas Marina. Max Verstappen est leader depuis le début de ce Grand Prix. Il compte maintenant plus de 11 secondes d'avance sur Valtteri Bottas. On sait que les deux hommes sont en bataille pour la deuxième place au championnat du monde, le titre final. Eh bien, si les choses restent en état sur les 20 km qui restent à parcourir environ, eh bien, c'est bien Bottas qui terminera vice-champion du monde pour quelques points devant Max Verstappen, dont ça pourrait être la 10e victoire en carrière en Formule 1 et la 2e de la saison après celle obtenue à Silverstone grâce à un coup de stratégie formidable de l'équipe Red Bull. Le 3e, eh bien, ce sera Lewis Hamilton qui n'a pas paru en mesure, on le sent un petit peu sur le back foot comme on dit, hein. Il n'est pas très agressif, Lewis Hamilton. Il se contente entre guillemets de suivre Valtteri Bottas à 3 secondes et demie environ. Et puis Alex Albon, le Thaïlandais, probablement en train de sauver son baquet aux côtés de Verstappen. Exactement. Chez Red Bull pour la saison 2021. Suivent le duo et les duettistes Norris et Sainz pour la dernière fois, puisqu'on sait que Carlos Sainz partira chez Ferrari. Et là, on parlera un petit peu plus tard du naufrage de Ferrari. Ricardo avec Renault termine pour le moment 7e et 10e avec Ocon. Ça ne suffira pas pour empêcher McLaren d'arracher la 3e position au classement constructeur. Et puis, on n'oublie pas, bien sûr, Pierre Gasly, excellent 8e, Lance Stroll 9e. Et je le disais, eh bien, du côté de Ferrari, c'est la Bérésina qui se poursuit avec Charles Leclerc seulement 13e et Sébastien Vettel 14e pour ses derniers Grands Prix en rouge.
Ouais, on fera le dernier tour en intégralité avec toi. On sera là évidemment pour la fin de cette saison de Formule 1. Juste une info foot à vous donner, c'est officiel désormais, Lucien Favre démis de ses fonctions à Dortmund. C'est son adjoint Edin Terzic qui va prendre sa place. Favre qui n'a pas résisté à la lourde défaite concédée hier contre Stuttgart 5-1. Terrible pour le Borussia, Kevin. Hein.
Ouais, et tous les supporters nîmois en PLS devant
Niçois, tu veux dire.
Pardon, oui, tous les supporters niçois en PLS parce que je pense qu'ils doivent tous espérer un retour de Lucien Favre pour prendre la relève, même si les dirigeants niçois, je le rappelle quand même, ont confirmé Urcea normalement jusqu'à la fin de saison.
Jusqu'à la fin de saison, effectivement.
À Lorient.
Vas-y, Pierre-Yves Leroux.
La pause et avantage Lorient. 2-0. Boisgard est la deuxième minute et Pierre-Yves Hamel qui double la mise sur pénalty à la 29e.
Et la grosse occasion pour Brest. Ouais, tout proche.
Tout fait bien sauf le petit piqué.
Exactement. Il y a une grosse erreur au milieu de terrain de Valon Berisha, le Kosovar. Ça profite à Cardona qui accélère face à face avec Rajkovic. La petite feinte de frappe qui met Rajkovic quasiment sur les fesses. Ensuite, il tente un piqué, Cardona. Et on voit le pied qui se dérobe sur. Enfin, le ballon en tout cas qui n'est pas pris sur la bonne surface du pied. Et ça passe à côté juste avant la pause. Ça aurait été le scénario idéal pour les Brestois. 1-0 malgré tout pour les Finistériens. On est dans les arrêts de jeu.
Et quelle occasion pour Nantes contre Dijon, David Philippot.
Ah oui, effectivement, j'ai failli venir vous voir et couper Xavier, mais le bon décalage d'Abed qui avait récupéré le ballon au milieu du terrain pour Aymon le Belge qui était absolument seul face à Rachopi. Il a complètement écrasé sa frappe. Ça donc, on en reste donc à 1-0 pour le FC Nantes. Le but de Moses Simon sur pénalty à la 24e. Il reste un peu moins d'une minute dans le temps additionnel de cette première période.
C'est terminé au rugby, la victoire du Loup face à Gloucester et Angers.
Le journaliste Benoît ne donne pas ses sources, mais c'est Pierre-Yves Leroux qui m'a glissé le titre. Un festival d'art et d'essai. Ça lui irait bien ce jeu de mots à Pierre-Yves Leroux. Festival d'art et d'essai, c'était exactement pour le Loup. 8 essais, 6 marqueurs différents et dont un triplé pour Xavier Mignot. Tout va bien donc pour le Loup pour cette entame de Coupe d'Europe. Il voulait exister en Coupe d'Europe cette année pour leur troisième campagne après deux premières campagnes en limite ridicule. Une seule défaite en 12 matchs. Et bien voilà qui est fait, 55-10 pour le Loup face à une équipe de Gloucester qui, faut bien le noter, était très amoindrie.
Exactement, la belle victoire de Lyon. Merci Edouard, bonne soirée à toi et bon match évidemment devant la télé entre le PSG et Lyon. Tu vas suivre avec beaucoup d'attention cette rencontre. Victoire du Loup 55-10 contre Gloucester. On suivra le Racing finaliste malheureux la saison dernière contre le Connard à partir de 16h15. On suivra dans quelques instants le dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi avec Jean-Luc Roy, juste auparavant la mi-temps à la Beaujoire. David Philippot.
Pour les Canaries, le but de Moses Simon à la 24e sur pénalty 1-0 donc pour les Nantais ici à la Beaujoire face à un Dijon, je ne l'ai pas dit, mais extrêmement diminué cet après-midi.
Exactement, donc Nantes qui mène 1-0. Mi-temps également à Strasbourg. Avec toi Sébastien Ruffet.
Oui, mi-temps à Strasbourg et c'est Metz qui mène 1-0 grâce à ce pénalty de Dylan Brown à la 35e minute, un petit peu contre le cours du jeu, c'est vrai, il faut bien le dire. Il va falloir que les Strasbourgeois réagissent.
Et mi-temps également à Brest, Xavier Grimaud.
Oui, à l'instant, 1-0 pour le stade brestois. Le buteur, c'est Franck Honora. Magnifique frappe, hein, du droit à 25 bons mètres dans le petit filet. Brest qui a manqué un pénalty. On va dire pénalty arrêté par Rajkovic. 1-0 pour Brest.
Merci Xavier. 15h48 sur RMC. Le dernier tour de la saison en Formule 1 et ce Grand Prix d'Abu Dhabi qui devrait être remporté par Max Verstappen, Jean-Luc Croix.
Et oui, Benoît, on s'en rapproche effectivement puisqu'il a couvert maintenant officiellement 53 tours. Max Verstappen, le Hollandais volant, c'est le surnom qu'on lui a trouvé. Max Verstappen à 23 ans serait en mesure de décrocher la 10e victoire de sa carrière en pilote de Formule 1. On va encore attendre un tout petit peu, mais ça devrait le faire puisqu'il a plus de 13 secondes d'avance sur Valtteri Bottas. Valtteri Bottas qui réagit toutefois, même si Lewis Hamilton est à plus de 4 secondes et demie maintenant. Mais c'est Alex Albon, hein, le Thaïlandais. Il faut reconnaître que là, il fait un très beau Grand Prix. Alex Albon, dont on a mis évidemment les qualités en cause il y a quelques Grands Prix quand il a commis plusieurs erreurs successives et qu'il avait du mal à bien terminer les Grands Prix. Eh bien là, je crois, je l'ai dit et redit, qu'il est en train de sauver son baquet. Bah, y avait-il c'est d'ailleurs suspense, moment, là, on ne le saura jamais, puisque le pauvre Sergio Pérez, lui, on l'a su, a dû abandonner au 10e tour sur des problèmes mécaniques aux commandes de sa Racing Point, lui qui est le dernier vainqueur en titre d'un Grand Prix de Formule 1 avec cette machine pour son 190e Grand Prix. On ne sait pas du tout si Pérez va retrouver un baquet pour la saison 2021 et au-delà, ce qui est un véritable scandale par parenthèse. Mais c'est du côté évidemment de Verstappen qu'on s'intéresse à ce pilote, puisque Verstappen, il a compris depuis longtemps que le titre, il ne pourrait pas le décrocher, mais il se battait pour le titre de vice-champion du monde au détriment de Valtteri Bottas. Et a priori, ça ne suffira pas. La victoire d'aujourd'hui ne lui permettra pas de combler son retard, puisque Bottas comptait 205 points avant ce Grand Prix. Verstappen en avait 189. Tu l'as compris, Benoît, ça ne sera pas assez. Lewis Hamilton va devoir peut-être se défendre dans les derniers mètres, alors que, eh bien, du côté d'Esteban Ocon, on essaie d'attaquer Lance Stroll pour la 9e place. Maintenant, c'est très serré entre les deux très jeunes pilotes. Le pilote Renault qui va prendre sur ses épaules évidemment la succession, puisque on sait que Daniel Ricciardo va partir. Il aura à ses côtés Alonso. Alors je dois dire un mot d'ailleurs, Alonso nous a fait un véritable festival ici à Abu Dhabi avec la Renault R25, celle qui l'a conduit au titre de champion du monde en 2005, équipée du moteur V10 Renault 3,5 litres. Et là je peux vous dire que c'est une autre musique que les tondeuses à gazon auxquelles on assiste aujourd'hui. Ça y est, je l'ai dit. Alors je crois que tous les passionnés de sport mécanique, et voilà, c'est la victoire maintenant de Max Verstappen avec un feu d'artifice à la clé, comme d'habitude, mais oui, 15 secondes d'avance, Max Verstappen qui termine en beauté, donc deuxième victoire de la saison après celle de Silverstone en Grande-Bretagne, et de cette saison raccourcie, vous le savez, c'est le 17e et dernier Grand Prix de cette saison. Valtteri Bottas termine deuxième et sauve sa place de vice-champion du monde. Lewis Hamilton est troisième à 2,5 secondes de Bottas. On trouve Alex Albon quatrième avec l'autre Red Bull à moteur Honda, et puis le doublé et la doublette Norris et Sainz pour la dernière fois, puisque je vous l'ai dit, Carlos Sainz part chez Ferrari. Je ne sais pas si c'est un cadeau compte tenu des performances de la Scuderia à l'heure actuelle. En tout cas, les deux jeunes pilotes qui s'entendent très bien comme Larron en foire, eh bien, assurent le titre, ou plutôt la place de troisième pour l'équipe McLaren. Ouais. Daniel Ricciardo aura tout fait avec la Renault, il est septième. Esteban Ocon est neuvième. Ils encadrent Pierre Gasly huitième et Lance Stroll est dixième. Voilà Benoît pour ce Grand Prix d'Abu Dhabi, dernier de la saison 2020.
Merci mon Jean-Luc, on s'est régalé une nouvelle fois avec toi. La victoire de Verstappen devant Bottas et Hamilton. On te retrouve très vite dès le début d'année 2021 pour la nouvelle saison de Formule 1 qu'on espère évidemment passionnante. 15h51 sur RMC, je vous rappelle les scores à la mi-temps des matchs de Ligue 1. Brest qui mène 1-0 contre Reims, 2-0 pour Lorient face à Nîmes, 1-0 pour Nantes contre Dijon, 1-0 pour Metz à Strasbourg, et tout de suite on parie.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Alors, mon petit Arthur Perrault, il y a des buts partout, tu nous as choisi quelle rencontre?
Bah, le derby. Tu l'as cité en dernier, c'est le match encore le plus équilibré, messieurs. 1,62 désormais la victoire de Metz. 2,75 le nul, 4,20 pour Strasbourg, joueur d'un des buteurs. Ajorc, 3,45, Thomasson, 5,10, Liénard, 5,60. Et du côté messin, Diallo, du côté Strasbourg, joue toujours Diallo à 2,85. Et sinon, du côté messin, Boulaye à 6,25, Enguet à 8,50. Je vous conseille le nul à 2,65, le 1 but partout à 3,30. Et le but, Kevin, de Diallo à 2,85.
Ah, il a pris, il a pris toutes mes idées.
Ah ben oui, mais c'est la meilleure option sur cette seconde mi-temps.
Ah ouais, franchement.
Bah, je vais dire le 1 partout, le but de Diallo, allez, donc le match nul.
Allez, 3,35, le 1 but partout et le but de Diallo à 2,85. C'est le moment d'y aller.
Voilà des bons conseils. Merci Arthur. Tous les conseils, vous les retrouvez sur rmcsport.fr.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
15h52 sur RMC. Dans un instant, les secondes périodes, justement, de nos matchs de Ligue 1. On ira également à Lille retrouver Jean Baumel pour Lille-Bordeaux qui démarre à 17h. On n'oublie pas le rugby avec l'entrée en lice en Coupe d'Europe du Racing, finaliste malheureux la saison dernière. Le Racing qui reçoit le Connard. À tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Foot, Liga Uber Eats.